Bonjour et bienvenue sur le blog Testara Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Daniel Dubois, co-auteur du livre Barefoot et minimaliste, courir naturel et aussi ostéopathe. Bonjour Daniel.
Bonjour Jean-Marc.
On rentre directement dans le vif du sujet.
Tout à fait.
Quelle est pour toi la définition du minimalisme ou de la foulée minimaliste ?
Alors, la foulée minimaliste, c'est la foulée naturelle, c'est-à-dire la foulée médio-pied, la traduction midfoot des anglo-saxons, qu'on peut éventuellement utiliser aussi le terme avant-pied. On utilise le terme médio-pied parce que avant-pied, c'est souvent, ça fait référence aux orteils, aux têtes de métatarsiens. Médio-pied, c'est plus la partie antérieure du pied, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en avant de l'arrière-pied, tout simplement.
Et donc, cette foulée médio-pied que tu décris là, comment se fait-il qu'on l'ait oubliée pendant de nombreuses années?
On ne l'a peut-être pas tant oublié que ça. Il y a un exemple très simple, c'est qu'on me dit souvent, mais il y a des coureurs qui courent avec des chaussures amorties, ce qu'on va appeler les grosses chaussures, comme mon confrère Blaise Dubois de Montréal, et qui ne se blessent pas. Vous dites toujours que l'amorti risque de blesser, et pourtant ils ne se blessent pas, tout simplement parce qu'ils ne s'en servent pas. Ils courent médio-pied. Autrement dit, ils ont des chaussures amorties qu'ils n'utilisent pas en tant que telles. Donc c'est en fait la foulée naturelle que beaucoup de coureurs ont. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que beaucoup de sujets se mettent à courir, alors qu'en fait, courir, c'est comme n'importe quelle autre activité sportive, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait s'apprendre, hein, bien que ce soit une allure tout à fait naturelle, tout à fait innée, hein, on court comme on marche, mais néanmoins, quand on veut en faire véritablement une activité sportive, quand on recherche la performance, donc on cherche à bien faire sans se blesser, on devrait en fait apprendre à courir. Et là, dans un club d'athlétisme, il y a des entraîneurs, les coachs comme on dit maintenant, qui sont là pour apprendre la bonne foulée.
D'accord. Mais comment on peut savoir, par exemple, qu'on a justement la bonne foulée, la foulée médio-pied, si on n'a pas recours à un coach ou à un entraîneur, ou si on ne fait pas d'athlétisme en club?
Eh ben c'est pas compliqué, il suffit de prendre pour exemple le coureur qui va faire une transition, c'est-à-dire qui avait par exemple une foulée de talon avec une chaussure amortie et qui va se mettre d'un seul coup à courir pieds nus ou en chaussures minimalistes, on y reviendra tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Il n'y a qu'à simplement étudier ses réactions. La première, pour ne pas dire la seule remarque que ces coureurs font, c'est de dire « mais oh là là, c'est incroyable ce que je ressens dans mes muscles des cuisses, quadriceps en particulier, et dans mes mollets. C'est incroyable ce que les muscles fatiguent. » Et bien tout simplement, si on veut savoir si on a cette bonne foulée, il suffit d'étudier sur un parcours plat, si possible en quittant ses chaussures, si c'est un bon, nous c'est ce qu'on recommande en général, car c'est le meilleur moyen sur quelques centaines de mètres de sentir les bonnes sensations, ou avec sa chaussure minimaliste, et d'étudier ce qui se passe. Très rapidement, dans les quelques premières centaines de mètres, on sent cette sensibilité importante au niveau des quadriceps et au niveau des mollets, et ça, c'est la preuve évidente que les médio-pieds.
D'accord. On va parler un petit peu de ton expérience personnelle maintenant. Comment t'es venu en fait au courir naturel et combien de temps par exemple tu as mis pour courir pieds nus? Car on peut le rappeler pour les lecteurs, les auditeurs, tu cours pieds nus, hein?
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est une double raison, une double motivation. C'était l'époque dans les années 70 et 80 où je faisais mes études de kiné puis d'ostéopathe, où je me suis posé un petit peu la question. C'était l'époque également où le jogging éclatait dans les rues. J'étais à Paris à l'époque, où on commençait à voir, avec des grands yeux écarquillés, les coureurs commençaient à courir sur les trottoirs. Et déjà, je me suis posé la question de ces chaussures qui venaient à l'époque, ces fameuses chaussures amorties, et je me suis posé la question de me dire, mais finalement, à quoi ça sert avec la foulée que moi j'apprenais sur le plan biomécanique à l'époque? Donc je me suis dit, c'est pas logique, je vais étudier ça de très près. Et puis, concours de circonstances, heureux ou malheureux, je ne sais pas trop, j'ai eu un accident de voiture assez sérieux, et j'avais eu entre autres le pied droit qui avait été relativement broyé. Je cohabite toujours d'ailleurs avec des vis et des broches depuis plus de 30 ans, et avec lesquelles je cours tout à fait, et il s'est trouvé que je n'ai pas pu me rechausser au début, puisque j'avais un avant-pied raide et que donc la chaussure cassait entre guillemets au mauvais endroit. Donc j'en ai parlé à mon entraîneur à l'époque qui m'a dit bon écoute, hein, essaye donc sur piste, essaye donc pieds nus puisque je pouvais pas me chausser. Et c'est comme ça que j'y suis venu. Et puis depuis, bah ça ne m'a pas quitté. J'ai ensuite couru hors stade et puis je suis allé bah, jusqu'au marathon dans ces conditions-là. Et maintenant je ne suis plus le seul puisque j'ai été rejoint par d'autres coureurs.
Tout à fait. Et du coup, moi j'ai une question toute simple. Comment tu entretiens tes pieds? Tu n'as pas peur de marcher par exemple sur un morceau de verre ou autre?
Alors, le morceau de verre, ça, c'est le grand fantasme, c'est la phobie que l'on nous resserre régulièrement. Bon, d'abord, il n'y a pas autant de verre que ça sur les trottoirs et encore moins sur les routes, notamment dans les régions de campagne. Donc, il faut se méfier, bien sûr. On apprend à regarder devant soi, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des grosses chaussures. On apprend à regarder où on met les pieds. Le morceau de verre, c'est ce que l'on voit le plus, c'est ce que l'on voit le mieux. Ça brille même le soir, même en ville, à l'allure des réverbères, il n'y a rien qui brille mieux qu'un morceau de verre. Personnellement, je ne me suis, on ne peut dire jamais, en tout cas grièvement blessé avec un morceau de verre, ça s'enlève avec des petites pinces tranquilles, mais il y a aussi d'autres inconvénients. Il faut éviter de courir dans les caniveaux et courir très près des bacs à déchetterie dédiés à cet effet, et puis on échappe tout à fait à ce genre de choses, et on apprend encore une fois spontanément à regarder où on met les pieds. Quant aux soins, bah, je dirais que c'est des soins d'hygiène, bien évidemment. Hein, on nous dit toujours, oh, mais c'est sale de courir pieds nus dans les rues. C'est vrai, bah, ça se nettoie. Je fais observer d'ailleurs que moi, je nettoie mes pieds après chaque séance, ce qui n'est pas toujours le cas. On nettoie pas toujours ses chaussures quand on rentre d'une course chaussée. Et au niveau des soins, bah, ce sont des soins tout à fait banals, avec simplement l'application de crème un petit peu hydratante, on va dire, parce qu'il y a quand même un dessèchement. Mais sinon, il n'y a absolument aucun soin particulier. Les coussinets, ce qu'on appelle les coussins plantaires, les capitons plantaires, se renforcent petit à petit. Et j'en reviens donc au problème de la durée de transition, d'adaptation. Il faut compter plusieurs mois. Moi, je considère qu'il faut à peu près 1 an pour pouvoir courir pieds nus ou en chaussures minimalistes dans les bonnes conditions.
Ok. Le livre est sorti il y a 1 an maintenant, donc je rappelle le livre, Barefoot et minimaliste, courir naturel, que tu as écrit avec Frédéric Dubois. Donc il y a. Frédéric Brossard, pardon, pourquoi je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais, bon, le livre est sorti il y a maintenant 1 an. Quel constat en fais-tu du
Eh ben,
livre? Est-ce qu'il y a eu plus d'adeptes d'après toi en France? Est-ce que tu sens un frémissement dans les
alors
coureurs?
le constat, il est d'abord, il nous fait un énorme plaisir. Avec Fred, on s'était dit, oh, on va peut-être avoir 600, 700 exemplaires vendus. Avec notre petite expérience des coureurs, lui en a une plus grande que la mienne encore au niveau du public. On s'était dit, c'est à peu près tout. Je crois qu'on doit en être actuellement à 2500 exemplaires, y compris une diffusion hors de l'Atlantique, au Canada. Donc ça dépasse largement les espérances et c'est surtout, moi je le vois par l'intermédiaire de mon blog, il y a surtout actuellement un engouement, on va dire, qui dépasse et qui casse un petit peu ce mythe de la mode, ce mythe de la nouveauté qui entreprend tout le monde. Non, je pense qu'il y a actuellement une prise de conscience. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites, pas seulement de ma part, mais c'est paru maintenant dans pas mal de revues spécialisées, et le minimalisme commence à devenir un véritable point d'interrogation et on essaye bien sûr d'y apporter toutes les réponses adaptées et je pense qu'on va en reparler tout de suite après.
Tout à fait. Comme aux États-Unis, en France, il y a aussi des critiques qui vis-à-vis de la course minimaliste. Par exemple, que cette pratique s'appuie pas réellement sur des études scientifiques. Tu leur réponds quoi?
Bah, je leur réponds d'abord une chose qui me paraît évidente, c'est que on nous reproche de ne pas avoir d'études scientifiques. Et c'est vrai, il n'y a pas d'études scientifiques au sens randomisé, au sens du caractère véritablement scientifique de l'étude. Je signale quand même, en passant, qu'il n'y en a jamais eu aucune non plus, à ma connaissance, par rapport à la chaussure à amorti du talon. Hein, donc on s'est basé sur des notions, notamment dérivées de la marche humaine, sur des fausses notions de la course à l'époque, pour dire, oh là là, les pauvres coureurs qui vont se mettre à courir sur les trottoirs, hasard, donc sur du dur, vont se faire un mal de chien et il faut absolument leur mettre un talon renforcé, sinon ils vont se faire mal au dos. C'était à l'époque l'argument majeur, mais il n'y avait aucune étude scientifique, et je dirais presque heureusement parce qu'une étude scientifique aurait démonté cela. Il n'y a donc pas d'étude scientifique réellement à propos du minimalisme. Par contre, il y a des études qui ont été faites, notamment, on cite toujours la référence qui est Daniel Lieberman de la faculté d'Harvard. C'est un anthropologue, c'est un biomécanicien qui a fait des études sur tapis roulant. Ce sont des observations, bien évidemment, mais ce sont des observations qui sont critiquées, ce sont des observations qui sont justifiées, qui sont argumentées, et je dirais que maintenant leur multiplication, y compris d'ailleurs les observations que l'on fait en France, valent, je dirais, toutes les valeurs scientifiques, puisqu'encore une fois, ce sont des observations avec des résultats qui, là par contre, de mois en mois, se multiplient avec des retours tout à fait positifs.
D'ailleurs, à propos de cette étude que tu évoques là, le fait que ça soit Vibram, qui donc c'est l'un des plus grosses marques, on va dire, pour les chaussures minimalistes, ait été les financiers de l'étude, ça a porté à caution notamment, et puis finalement, est-ce que ça n'a pas plutôt fait du tort que du bien, cette étude-là?
Oui, peut-être, bien sûr. Bon, il se trouve que moi, c'était les premières chaussures que j'ai portées, c'était des Vibram Five Fingers. Évidemment, pour une simple raison, c'est qu'à l'époque, c'était les seules qui étaient sorties sur le marché. Ce sont des
Tout à
toutes
fait.
premières. Et donc, oui, bien sûr, ces études ont été. Il faut, pour toutes ces études qui coûtent très cher, il faut bien sûr des sponsors. Il faut pas oublier non plus. On va pas lancer une polémique là-dessus, mais enfin que beaucoup de formations et d'informations médicales, notamment sur le plan médicamenteux, sont aussi, ça fait l'objet d'ailleurs de pas mal de reportages ces derniers temps et de vives critiques, sont également financés par l'industrie pharmaceutique. Donc il y a forcément, on peut bien sûr toujours trouver des conflits d'intérêts, c'est évident, mais il n'empêche que, encore une fois, les observations qui sont faites, elles ne sont pas discutables. Une observation, on ne peut pas la discuter. On nous dit toujours, j'en profite pour le marteler, c'est qu'il n'y a pas d'observation scientifique. Je suis désolé, les observations sont faites sur de la physiologie, et on m'a toujours enseigné à moi que la physiologie était une science. Donc tout ce qui est observé, corrélé par des commentaires et par des observations médicales sont ni plus ni moins qu'une étude scientifique.
D'accord. Tu es revenu plusieurs fois sur la transition pour passer d'une paire de chaussures, on va dire, de running basique à une chaussure ou à des chaussures minimalistes. Peux-tu expliquer au lecteur pourquoi cette transition est si importante?
Alors, c'est la pierre angulaire du minimalisme. C'est-à-dire que l'on va passer, si on prend pour principe que le coureur a au départ une mauvaise foulée, c'est-à-dire une foulée avec attaque de l'arrière-pied sur une jambe tendue avec des tensions non physiologiques, avec des tensions anormales au niveau de ses chaînes musculaires, non seulement du membre supérieur mais également du bassin et de la colonne vertébrale, il est certain que ce changement brutal qui va être imposé par le fait de quitter les chaussures, de courir pieds nus ou en chaussures minimalistes, va automatiquement entraîner d'énormes perturbations, même si c'est dans le bon sens. Il faut bien concevoir que ces perturbations sont très importantes. Il va falloir que l'amorti soit assuré par les muscles, il va falloir que on passe grossièrement d'une foulée dynamique de propulsion à une foulée d'amortissement, à une foulée protectrice du squelette, et ça, c'est là la pierre d'achoppement, c'est là qu'effectivement, si cette transition est mal réalisée, notamment si elle est faite trop vite, si elle est faite dans de mauvaises conditions, si elle est faite parce qu'on ne juge que l'objectif et la performance que l'on veut continuer, là évidemment, cette phase de transition, elle risque d'être dramatique, et c'est elle d'ailleurs qui a fait cette mauvaise réputation au départ, parce que je ne veux pas dire que notre livre a été le sauveur de l'humanité, mais il est bien évident qu'avant que les publications soient faites, beaucoup de coureurs ont fait n'importe quoi. Ça, c'est absolument évident.
D'accord. En tant qu'ostéopathe, tu dois souvent rencontrer des coureurs blessés. Et quelle est la différence entre les des blessures entre les coureurs basiques et les coureurs minimalistes?
Alors, il faut bien revoir que justement, ça aussi, ça fait un petit peu la mauvaise réputation, entre guillemets, du passage au minimalisme, c'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de coureurs sont venus au minimalisme parce qu'ils ont été précédemment blessés, ils ont entendu dire, ou ils ont lu maintenant, que le minimalisme aurait pu peut-être éviter un certain nombre de blessures. Donc déjà, toutes ces blessures, c'est-à-dire essentiellement les périostites, les fascites ou aponévrosites, les tendinites, ce sont autant de pathologies que l'on ne rencontre pas ou très peu dans le minimalisme, à condition que la transition soit faite correctement. Donc toutes les blessures qui sont dues, encore une fois, au fait que la foulée talon, attaque talon, a des caractéristiques gênantes, pathologiques pour les muscles et les tendons en particulier, ainsi que les os, eh bien ces pathologies n'existent plus dans la course minimaliste, pour une simple raison, c'est qu'encore une fois, le corps retrouve des conditions physiologiques de course, et qu'à partir de ce moment-là, si on observe une transition correcte, je pense qu'on va y revenir, eh bien, il n'y a pas de blessure particulière. Alors, on parle de cette fameuse fracture de fatigue, je pense qu'on va certainement y revenir tout à l'heure, parce que là, effectivement, c'est le gros reproche que l'on a refait à la course minimaliste.
Oui, effectivement, la fracture de fatigue revient souvent. Il y a aussi, par rapport à la transition, des douleurs souvent qui sont dans les cuisses, comme tu l'as dit, mais aussi dans les mollets. Si on ressent ces douleurs-là, doit-on ralentir la transition? Comment s'y prendre en fait pour faire cette transition sans trop se blesser?
Alors, nous avons dans le livre, Frédéric Brossard et moi-même, enfin là c'est surtout lui qui a établi ça, fait on va dire, un plan de transition. Nous en avons discuté, lui et moi, j'étais pas tout à fait d'accord, mais il fallait bien quand même trouver une norme, on va dire. Mais en fait, ce plan de transition, c'est vraiment purement individuel. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas question de se dire, à partir de demain, je jette mes grosses chaussures à la poubelle, je n'en mets plus, ou je mets des chaussures minimalistes et je vais refaire demain exactement ce que je faisais la veille. Ça, c'est suicidaire, c'est la chose à ne pas faire. Une transition minimaliste, c'est un petit peu la remise à zéro. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par quelques centaines de mètres, c'est-à-dire quelques petites minutes de course. Et là, on va ressentir ces douleurs qui sont encore une fois des douleurs physiologiques, puisque d'un seul coup, on demande à des muscles d'effectuer un travail qu'ils n'ont pas effectué. C'est exactement comme quand vous déménagez votre appartement et que vous trouvez des douleurs dans le dos, des douleurs dans les bras, des douleurs dans les épaules. C'est normal, ça n'a rien de pathologique. Simplement, il faut en tenir compte. Le gros problème, et là je glisse tout de suite un petit peu sur ce risque d'accident parce qu'il est lié à ça, c'est qu'un muscle qui se fatigue, qui va être courbaturé, ne va plus remplir le rôle d'amortisseur qu'on lui demande de remplir. S'il ne remplit plus ce rôle d'amortisseur, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que le squelette, ben, n'a plus cette protection, et c'est le squelette, c'est cette charpente rigide qui va subir les contraintes mécaniques. Et ça, elle n'est pas faite du tout pour ça. Le résultat, c'est que le squelette va souffrir, et qu'à ce moment-là, effectivement, si on pousse vraiment trop loin, il va y avoir la stress fracture, la fracture de fatigue.
D'accord. Pour toi, à partir de quel drop une chaussure est minimaliste? Parce que maintenant, on voit beaucoup de marques qui proposent des chaussures minimalistes, mais elles n'ont pas toutes le même drop.
Voilà, alors c'est pareil, on nous a dit chaussures minimalistes, c'est égal absolument drop zéro. Bon, c'est sûr que drop zéro, ça, c'est on ne peut plus minimaliste. Une chaussure minimaliste, on considère que jusqu'à 4 mm de drop, c'est-à-dire de différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure, 4 mm, ça ne change pratiquement rien. On considère même que jusqu'à 5-6 mm de drop, il n'y a pas véritablement une différence très importante. Ce qui caractéristique et ce qui caractérise surtout la chaussure minimaliste, c'est la minceur de sa semelle, qui ne fait que quelques millimètres, donc qui va restituer toute la sensibilité, non pas la douleur, mais la sensibilité profonde et superficielle au niveau du pied, et surtout cette absence de talon rehaussé, qui va donc permettre au pied de s'exprimer normalement avec une semelle, bien sûr, beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide. À partir de là, il s'agit en fait comme disait d'ailleurs Vibram, d'un chausson souple avec une interface neutre ou presque neutre entre le sol et le pied du coureur. Ça, c'est la chaussure minimaliste. Maintenant, le drop, ça, c'est à voir. Certains préfèrent avoir un drop de 2, 3, 4 mm. Certains préfèrent avoir un drop zéro, ce qui est évidemment le plus logique. Mais je dirais que jusqu'à 4 mm, il n'y a pas de différence vraiment sur le plan physiologique.
Pour quelqu'un qui veut se mettre à la course ou à la foulée minimaliste, le fait de diminuer le drop d'une chaussure, par exemple, à passer de 12 à 8, à 6, est-ce une bonne idée ou plutôt il doit directement faire le grand saut, on va dire, et y aller mollo-mollo en appliquant la transition du livre?
Alors, je vais être très très honnête, il n'y a pas vraiment, pour le moment encore, on n'a pas un recul suffisant pour dire oui ou non, il faut une chaussure, on a parlé de chaussures de transition, sans faire de publicité, il y a Skechers notamment qui a sorti des chaussures de transition, c'est-à-dire avec une souplesse de semelle, avec un drop intermédiaire, c'est-à-dire de l'ordre de 10 mm à peu près, il y a la Goran notamment, qui est une très bonne chaussure de transition, qui est très souple, qui a un drop très large, qui permet donc d'avoir une foulée tout à fait correcte en attendant de pouvoir. Ceci dit, pour moi, c'est un petit peu un faux problème, parce que ça tient plus pour moi de la superstition que de la réalité physiologique véritablement. Je pense qu'on peut passer directement à un drop zéro, sachant qu'encore une fois, je le répète, beaucoup de coureurs en grosses chaussures n'utilisaient pas de toute façon ce fameux drop positif. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de règles en la matière et on peut directement passer sur un. Et d'ailleurs, j'ai des retours de beaucoup de coureurs qui l'ont fait. Il n'y a strictement aucun problème si on respecte encore une fois cette phase de transition qui est absolument capitale.
D'accord. On a surtout parlé aussi des limites en distance, par exemple pour les ultras, pour la foulée minimaliste. Est-ce qu'il y a vraiment une limite pour les coureurs minimalistes?
Alors ça, c'est une excellente question, d'autant que là, tout récemment, ces toutes dernières semaines, il y a eu quand même des observations qui ont été faites, que là, on ne peut pas discuter non plus. Il y a eu, on a vu sur l'UTMB, on a vu des coureurs en five-finger
Tout à
Spiridon.
fait.
Je me souviens moi-même avoir dit, il y a à peu près un an, un internaute qui me disait, mais jamais on ne pourra utiliser ces chaussures sur de vraies courses, entre guillemets. Et je disais effectivement, ça, il est certain, je le disais très honnêtement, que jamais je ne conseillerais à quelqu'un de faire l'UTMB en VFF. Et ben voilà, je me suis trompé, mais dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement les limites. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut les pousser, c'est comme toutes les limites en matière sportive, on peut les reculer jusqu'où, je ne sais pas. Mais il y a actuellement énormément de coureurs, même à des niveaux beaucoup plus modestes, qui pratiquent le trail, notamment maintenant. Non, avec soit effectivement des Vibram, soit avec d'autres marques comme Merrell, etc., qui sortent des chaussures tout à fait. J'en ai vu récemment à Annecy chez un chausseur expérimenté, et il y a maintenant des chaussures qui sont tout à fait compatibles avec la performance tout terrain et avec la notion minimaliste, et sans blessure et sans problème.
D'accord. À propos de la foulée minimaliste sur le tout-terrain en trail, est-ce qu'il y a en plus des restrictions lorsqu'on fait une transition sur, on va dire, sur des chemins accidentés? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en plus?
Alors, il semblerait que la chaussure minimaliste, de par sa semelle, bon, normalement, il y a une bonne protection dans ces chaussures spécialisées au niveau des appuis, notamment au niveau des orteils, la protection avec des barrières. Mais il y a un petit problème apparemment qui semblerait, selon certains coureurs, intervenir au niveau des glissades, notamment dans les descentes. Donc ça, il faut effectivement peut-être apporter des améliorations à ce niveau-là, mais j'en parlais récemment avec un trailer qui court en VFF Spiridon et qui me disait non, 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 c'est une question d'habitude, mais on ne glisse pas plus avec ces chaussures-là qu'avec d'autres, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a alors un retour, à mon avis, très positif, et ça trouve son explication tout à fait logique dans la physiologie, c'est que beaucoup de coureurs qui se plaignaient d'avoir, il y a quand même souvent des entorses en milieu trail, professionnelle qui me disait, depuis que je cours avec des chaussures sans drop, avec des chaussures minimalistes, je n'ai plus du tout, je ne ressens plus d'instabilité de ma cheville, je ne me tords plus la cheville. C'est tout simplement logique, juste un tout petit mot, c'est que quand on court physiologiquement, c'est-à-dire avec une foulée médio au pied, on court de toute façon avec un phénomène de pronation qui est encore une fois, une pronation, c'est naturel. On en a fait une pathologie pour vendre des chaussures, mais la pronation, elle est quelque chose de tout à fait naturel quand on prend appui. Pronation, ça veut dire mettre son pied vers l'intérieur, et on ne peut pas, en même temps qu'on met son pied vers l'intérieur, le mettre vers l'extérieur et se tordre la cheville. Ça paraît complètement illogique. Et c'est la raison certainement pour laquelle l'entorse de cheville n'existe pas avec les chaussures minimalistes. Et c'est un plus pour le trail.
D'accord. À propos de cette entorse de cheville, moi je suis venu au minimalisme parce que je me suis blessé comme ça avec une grosse entorse de cheville. Par rapport à mon blog, j'alterne beaucoup entre les chaussures, on va dire minimalistes et les chaussures normales. Est-ce une tare ou pas?
Ah, pas du tout, pas du tout. Encore une fois, je dis toujours que ça n'est pas une doctrine, ça n'est pas une vision sectaire du chaussage, ça n'est pas non plus une thérapeutique. Hein, je n'ai jamais dit qu'il fallait chausser minimaliste pour se sentir mieux, même si on va dans le bon sens. Donc, il n'y a absolument aucune raison de ne pas alterner. Pourquoi pas? Personnellement, j'en vois pas l'utilité dans la mesure où, si on est bien dans ses chaussures minimalistes, il n'y a aucune raison particulière pour rechausser à l'occasion des chaussures normales, mais rien n'empêche de le faire et c'est pas du tout une bêtise. Hein. Je rappelle encore une fois qu'il y a beaucoup de coureurs qui courent médio-pied, y compris en chaussures minimalistes bien sûr, mais également en chaussures avec drop. Donc pourquoi pas, après tout, moi je n'ai rien contre. Je n'ai rien, encore une fois, contre les grosses chaussures. On me dit des fois, moi je suis très bien dans mes grosses chaussures, je ne me suis jamais blessé, j'ai jamais de problème, je ne vois pas pourquoi je passerais au minimaliste. Je suis tout à fait d'accord, après tout, si chacun y trouve son bonheur. Moi je ne suis pas un sectaire du minimalisme, et encore une fois, j'en fais pas une doctrine. Hein.
Très très bien. Alors, on va passer maintenant aux questions des lecteurs. Alors, elles sont variées dans différents domaines. Alors j'ai une question de Louis qui dit bonjour. Je recherche une paire de trails avec un drop de zéro. Quelles chaussures me conseillez-vous? Merci d'avance.
Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle. Bon, moi, je ne suis pas, encore une fois, je suis pas très chaussure. Donc, là, je peux renvoyer par contre vers les tests que Fred réalise régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, sur le site runners.fr. Mais pour moi, il y a plusieurs marques possibles, mais il y en a une que je connais particulièrement bien. J'ai mes amis de Walking Shop Annecy, qui sont avec Madeleine Rouillot-Gaillard, qui est particulièrement compétente dans ce domaine-là, et je dirais que Merrell fait vraiment, mais encore une fois, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Merrell, mais fait vraiment des chaussures qui sont parfaitement adaptées, avec toute une gamme maintenant qui est intéressante. Le plus de Merrell, c'est que, et ça, on n'est pas obligé de les acheter pour autant, mais c'est d'aller sur le site de la marque, où l'on a notamment un certain nombre de tutoriels vidéo qui sont remarquablement bien faits et où tout est expliqué. Et puis après, on fait son choix et on a le droit de choisir une autre marque. Maintenant, si je veux rester fidèle à Vibram, parce que c'est ma marque fétiche depuis que je cours, il y a toute une gamme. Il y a les Spiridon notamment qui sont bien adaptés au trail. Et puis sinon, il y a les Sia qui sont plus adaptés à la route.
D'accord. Moi, je conseillerais pour Louis que si c'est Merrell, c'est la Merrell Trail Glove que je
Oui.
suis en train de tester, qui est vraiment une chaussure de qualité.
Moi, c'est celle que j'ai vue, enfin, dans les premières chaussures minimalistes sorties en mode trail. La Trail Glove était la pionnière, je dirais. Et je pense qu'ils l'ont. Bon, ils l'ont peut-être modifiée, ils l'ont peut-être agrémentée avec de nouveaux modèles maintenant. Mais pour moi, Merrell reste une marque de référence qui est tout à fait remarquable.
Alors maintenant, j'ai une question de Manu. Alors qui dit qu'il est, je suis passé à la course minimaliste, 4 mm de drop, enchaînant les entraînements sans aucun problème, mais après avoir fait un trail de 65 bornes, j'ai ressenti de fortes douleurs au tendon d'Achille. Cela a été long et j'ai dû revenir à une chaussure avec un drop intermédiaire et avec un peu d'amorti. Je veux vraiment persévérer car actuellement ce sont les seules chaussures qui me donne ni ampoule ni échauffement. Que dois-je faire? Des étirements spécifiques, alterner encore un moment?
Alors, moi, je pense que pour ce qui est du tendon d'Achille, il y a, j'en parle souvent d'ailleurs, je vais en parler d'ailleurs dans mon blog, je vais faire un article là-dessus. Il y a une méthode, bon, le stretching, c'est-à-dire les étirements, c'est assez discuté, notamment par mon confrère Blaise Dubois de la Clinique du Coureur, qui en voit des côtés négatifs. Il y a par contre une méthode qui s'appelle la méthode Stanish, Stanish, que l'on trouve très facilement sur Internet. C'est une méthode d'un travail, c'est ce qu'on appelle, alors bon, c'est un petit peu technique, c'est ce qu'on appelle le travail musculaire excentrique. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de travail musculaire, en gros. Il y a le travail concentrique, c'est-à-dire par exemple quand on monte sur la pointe des pieds, on contracte son triceps, son mollet. Par contre, quand on freine la descente, on contracte évidemment le mollet, sinon le talon tombe, hein, mais là, le muscle ne se contracte plus en raccourcissement, il se contracte pour ralentir l'élongation. Et ça, c'est le travail excentrique, et c'est, je pense, à mon avis, un des meilleurs exercices que l'on puisse faire. Donc, c'est la méthode Stanish que je recommande véritablement, et là, les retours sont très, très positifs. Maintenant, par rapport aux causes, bon, il est évident que 65 km, c'est quand même pas négligeable. Et que là aussi, peut-être qu'une préparation spécifique, justement, n'a pas été suffisamment élaborée, notamment dans les freinages. Et je pense que la méthode Stanish, à mon avis, peut apporter et aurait dû être pratiquée certainement. Moi, j'en fais vraiment une partie capitale de la préparation physique générale en matière de trail minimaliste.
D'accord. On va d'ailleurs y venir je pense, à la question qui suit, une question de Alex, qui dit que suite à une fracture il y a 2 ans, mon gros orteil a été renforcé par une petite barre de fer, l'empêchant de se plier entre les deux phalanges. Depuis que je cours sur le médio pied, je ressens des douleurs au tendon d'Achille, toujours lui. Pensez-vous que cela soit lié? Et me conseillez-vous de faire retirer cette barre? Ça, c'est la
Bah,
première question.
je vais dire, Alex, bienvenue au club, parce que moi aussi, j'ai le matériel j'ai un petit peu la même chose que lui, c'est-à-dire que j'ai un gros orteil qui est rigidifié depuis 30 ans, hein, j'ai encore des broches dedans. Ça n'empêche absolument pas de courir. Bien sûr, la physiologie du pied est modifiée, c'est bien évident, on n'a plus les deux pieds pareils, mais encore une fois, je peux, alors là, témoigner à titre personnel que ça n'est pas du tout impossible. Par contre, bien évidemment, on en revient à la question précédente, il faut absolument développer, musclé, mais intelligemment, j'entends par là, musclé de façon physiologique, de façon ciblée, son triceps, qui bien évidemment va travailler d'une façon entre guillemets anormale, puisqu'encore une fois, le pied du coureur n'a plus les caractéristiques physiologiques normales. Et là encore, je renvoie à la méthode Stanish. Il faut absolument arriver à habituer ce tendon d'Achille, qui est, rappelons-le, le tendon le plus puissant de tout le squelette, puisqu'il est capable à lui tout seul, ce petit tendon finalement qui n'est pas très large, il est capable de développer des forces de plusieurs centaines de kilogrammes force. Et donc à partir de là, il faut absolument le renforcer. Alors peut-être qu'en plus, il y a peut-être des phénomènes du fait de son accident, il y a peut-être aussi des phénomènes plus haut situés, avec peut-être des perturbations au niveau genou, surtout au niveau bassin. Et là, il faut peut-être se rapprocher effectivement d'un ostéopathe ou d'un médecin du sport, de façon à faire diagnostiquer ça et éventuellement trouver une solution appropriée.
Okay. Et notre ami Alex, il a aussi une deuxième question. Auriez-vous des conseils ou des exercices à donner afin de parvenir à une foulée minimaliste correcte? Parce que souvent on parle de l'entraînement, de la transition, mais est-ce qu'il y a des exercices particuliers à faire en plus de l'entraînement?
Non, non, pour moi, des exercices véritablement, non. Il y a surtout, ça j'y reviens, et ça n'a rien à voir directement d'ailleurs avec la course minimaliste, il y a surtout le travail proprioceptif qui est très important, puisque là, la proprioception va retrouver, toute sa valeur. La proprioception, je le rappelle très rapidement, c'est ce sens que nous avons en profondeur au niveau de notre squelette, nos muscles, nos tendons, nos ligaments renseignent en permanence, en temps réel, notre cerveau sur l'état de situation de notre squelette, sur le mouvement qui est en train de se faire, les appuis, etc., etc. Et en réponse, en rétroaction, en feedback, le cerveau donne les contractions qu'il faut. Donc c'est ça qu'il faut absolument développer, parce que là, en minimalisme, on va en avoir énormément besoin. Donc travailler sur les plateaux de Freeman, sur les trampolines, Chine, tout ce type de travail proprioceptif qui doit faire partie absolument de l'entraînement, de la préparation physique générale. Et là, tous les coureurs qui démarrent ce travail proprioceptif nous disent des fois: oh bah quand même, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est difficile, j'ai du mal, alors qu'en fait, on considère que c'est rien du tout. Et non, la proprioception, on en a énormément besoin, et là encore, ça vient en prévention d'un bon nombre de blessures.
Okay. Ok. Maintenant, j'ai une question de Vincent qui dit bonjour. Je rebondis sur les commentaires ci-avant pour indiquer que pour ma part, je cours sans souci avec des chaussures avec un drop de 8 mm et que depuis que je suis passé du domaine qui s'entraîne plus avec des chaussures de 4 mm, il a des douleurs au niveau du talon d'Achille. Encore les talons. Après, les chaussures avec un drop de 4 mm ont beaucoup moins d'amorti. Est-ce que cela provient de plus de là? Tout comme les chaussures avec un drop de 0 mm qui n'ont pratiquement plus rien en termes d'amorti. Cela rejoint un commentaire que j'avais préalablement laissé sur la non-compréhension du lien entre un drop de plus en plus faible, forcément lié à des chaussures de moins en moins amorti protégées. Est-ce vraiment compatible?
Oui, de toute façon, bon, il est certain, encore une fois, d'une chose, c'est que, et ça c'est très important pour ce qui est de la progressivité et de la transition, c'est que chaque cas est un cas particulier. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est très difficile de donner un plan rigide, et je pense que c'est même dangereux, de donner un plan rigide de progression en matière de temps, en matière de durée, en matière de distance. Chaque cas est un cas particulier, et si l'on est attentif, et c'est ça la clé de voûte du problème, si on est attentif à ces sensations, donc si on va, non pas jusqu'à la douleur, mais si on va jusqu'à la sensibilité de son tendon, il faut impérativement remettre un certain nombre de choses en question. Il faut savoir que chaque individu est un cas particulier. J'ai un de mes amis les plus proches, qui se reconnaîtra sûrement, qui est possesseur, entre guillemets, de tendons d'Achille, ce qu'on appelle les tendons d'Achille courts. Il est fait comme ça, il a des tendons d'Achille relativement rétractés, on n'y changera rien du tout, bien évident qu'on ne va pas l'opérer. Hein, et donc, il a effectivement, il s'est blessé d'ailleurs à cause de ça, parce qu'il a fait un petit peu n'importe quoi au départ. Là, on se suit actuellement au niveau de la course, et il faut du temps pour arriver progressivement à diminuer ce drop, à arriver. Et si on est, il peut y avoir des limites au minimalisme, encore une fois, j'en suis tout à fait conscient. Certaines personnes peuvent avoir, il n'y en a pas beaucoup, mais peuvent avoir des restrictions personnelles qui ne leur permettront pas d'avoir une foulée médio-pied correcte. Elles risquent d'avoir des soucis, elles risquent d'avoir. Pourquoi pas? Hein, je n'en fais pas encore une fois un dogme, je n'en fais pas quelque chose d'absolument intransigeant. Il peut y avoir des limitations. Ceci dit, encore une fois, si on fait très attention à sa progression, si on pratique cette fameuse méthode Stanisch, si on utilise le massage transversal profond, j'en parle beaucoup sur mon blog, on peut arriver avec du temps à venir à bout de ces sensations, voire de ces douleurs et des accidents qui peuvent en résulter.
Bien, bien, bien. Après, j'ai une question de Nathalie qui dit bonjour. Existe-t-il en France des clubs ou des associations sportives dédiées à la course minimaliste? Et merci pour l'interview. C'est justement une bonne question. Tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de coureurs qui pratiquent cette foulée-là. Est-ce qu'il y a vraiment des clubs ou des associations sportives qui sont dédiées à la course minimaliste en France?
À ma connaissance, il n'y en a pas véritablement dédié, uniquement dédié à cela. Encore une fois, un entraîneur d'athlétisme, un entraîneur de course à pied, va forcément apprendre la bonne foulée. J'en veux pour exemple que moi, je n'ai jamais porté, même à l'époque où je me chaussais au tout début, quand j'étais adolescent, quand j'étais très jeune, et que je pratiquais l'athlétisme sur piste, qu'est-ce que nous avions comme chaussures? Nous avions des chaussures minimalistes, et elles existent toujours. Si tu prends une chaussure de piste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de plus minimaliste que cette chaussure? Elle n'a pas de talon, elle a une semelle qui est minimale, elle a, bon, éventuellement les pointes, évidemment, que l'on met dessus, mais c'est une véritable chaussure minimaliste. Et normalement, tout entraîneur d'athlétisme, de course à pied, va apprendre à ces personnes à courir sur le médio-pied. Et de toute façon, en particulier dans la course de vitesse, puisque c'est quand même souvent ça qui est recherché en milieu athlétisme, la course de vitesse, elle se fait sur le médio-pied. Il n'y a qu'à regarder les vidéos qui sont évidemment parlantes. Hein. Je prends toujours la référence 1984 de la course de Zolabud qui courait pieds nus et qui a quand même battu le record des 2500 mètres. C'est absolument évident, encore qu'elle a une foulée qui est un petit peu particulière, mais qui est due à sa morphologie. Mais On apprend forcément à courir sur le médio-pied. Et puis surtout maintenant, bon, dans la plupart des villes, c'est vrai pour Paris, c'est vrai maintenant pour Lyon, c'est vrai pour avec moi, c'est vrai pour un certain nombre d'endroits, on peut trouver effectivement, par l'intermédiaire des blogs, on peut trouver des systèmes de coaching, de sortie en commun, où on peut parfaitement parler de tout ça.
Maintenant, on va passer à une question de Gérald qui dit bonjour. Est-ce qu'une deuxième version du livre est prévue? Ah.
Alors là, c'est une bonne question. Je dois dire que je ne saurais pas quoi répondre. J'ai personnellement envie. Je connais pas la position de Fred hein, à ce sujet-là. Personnellement, j'aurais envie non pas de faire une seconde version, mais c'est un petit peu en cours. Je voudrais justement arriver à compiler un petit peu tous les retours qui commencent à être intéressants, arriver à compiler tous les résultats, notamment entre elles, qui est quand même la discipline la plus, entre guillemets, la plus risquée au niveau de notre squelette, pour arriver à étayer et à confirmer tout ce que l'on a pu dire dans la première version. Mais il y a du travail à faire, et oui, mais pourquoi pas, de toute façon, il y a d'autres livres hein, qui sont sortis récemment, je pense en particulier à celui de Salah Bakcel, Courir léger, il y a Fred Brigot au Maroc, qui a, avec des concepts, qui fait également de très bons livres. Donc en fait, je pense que tout ça va venir, va petit à petit s'enrichir de commentaires venant de différents. Hein. Moi c'est ostéo, Frédéric est ingénieur, les autres sont d'autres milieux, et le fait que tout converge vers la même chose, c'est quelque chose de tout à fait positif.
Bien. Alors maintenant, j'ai une question de Sean. Bonjour et merci pour votre livre que j'ai lu avec intérêt. Alors sa question, la transition vers une foulée plus naturelle qui accompagne le port de chaussures minimalistes a-t-elle une progression linéaire, toute proportion gardée avec le temps d'entraînement? Et surtout, a-t-elle un seuil, une limite selon la morphologie de chacun? Alors il précise, peut-on courir au fil des mois avec des chaussures amorties classiques, puis avec des chaussures ayant un dénivelé, enfin un drop de 9 mm, puis de 6 mm, puis des 0 drop sur toutes les distances, ou bien chaque coureur a une limite qui lui est propre. Faut-il savoir s'arrêter dans cette quête?
Alors, c'est la question est très touffue, mais je dirais qu'elle se résume en une chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque transition, et c'est ça qui est très très important, chaque transition est individuelle. C'est absolument individuel. On peut pas faire de schéma. Il y a un certain nombre de règles, je dirais, à respecter, notamment au niveau de la progression. Cette progression, c'est simple. Il faut être, c'est ça, c'est mon leitmotiv. Je le répète à qui veut l'entendre. C'est la notion d'écoute de son corps, d'écoute de ses sensations. Toutes les sensations, qu'elles soient tendineuses, musculaires, articulaires, ligamentaires, etc., sont autant de signaux d'alarme, c'est-à-dire que le corps nous envoie sous forme d'une sensibilité, je ne dis pas d'une douleur justement, mais d'une sensibilité, courbature, sensation de tension dans un tendon, nous envoie des petits messages en disant attention, là, on a atteint la limite du jour. Et c'est ça qu'il faut absolument, quelles que soient les conditions de drop, quelles que soient les conditions de distance, les conditions de terrain, c'est ça qu'il faut absolument respecter. Toute sensibilité, entre guillemets, anormale, toute sensibilité nouvelle doit faire penser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru un petit peu plus longtemps que d'habitude, j'ai couru sur des dénivelés, j'ai couru sur un relief qui n'était pas. Et c'est ça qu'il faut absolument, dont il faut absolument tenir compte, c'est capital, c'est ça qui peut éviter les incidents. En dehors de ça, encore une fois, et là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas, surtout pas, de règles rigides. Et c'est ça qui est extrêmement important. On peut pas dire, on a dit effectivement, il faut progresser de 10% d'une séance à l'autre, etc. en distance. Ok, ça c'est la règle générale. Maintenant, à partir de là, vient se greffer dessus l'écoute des sensations. Et ça, c'est absolument capital.
D'accord, je te rejoins tout à fait. Il faut écouter son corps et écouter ses sensations.
Et le respecter surtout, c'est-à-dire, bon, l'écouter c'est bien, hein, mais se dire, oh bah de toute façon, demain je vais en faire un petit peu moins, non. Si on voit qu'en démarrant la séance, tout de suite ou très rapidement, la sensibilité revient, c'est trop tôt. Il faut savoir dans ces cas-là dire stop, je m'arrête 24 heures, 48 heures et je reprendrai. Et très honnêtement, tous les coureurs que j'ai eu l'occasion de conseiller, même à distance et de coacher, ont eu des résultats extraordinaires. J'ai un de mes meilleurs amis avec lequel j'ai eu l'occasion de courir, qui en un an est passé, alors lui court pieds nus, strict, hein, et il est passé à 50, à plus de 50 ans, il est passé en un an pile, à peine un an, il est passé à courir un 10 km en moins de 50 minutes. Et franchement, sans aucun problème, et lui est un de mes meilleurs ambassadeurs parce qu'il n'arrête pas de dire écoutez-le, grâce à lui, je pensais jamais y arriver et j'y suis arrivé. Maintenant, attention, c'est un exemple, hein, et encore une fois, il ne faut pas le suivre avec rigidité. Il y a des personnes qui seront capables de le faire en 6 mois, il y en a d'autres à qui il faudra un an et demi. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai mis 2 ans avant de passer de la course sur piste toute simple au marathon. Il m'a fallu 2 ans pour courir 42 km dans de bonnes conditions, pieds nus.
2 ans, c'est aussi c'est long et on peut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne peuvent attendre, notamment ceux qui font qui pratiquent régulièrement les compétitions,
Bien sûr.
attendre ce temps-là pour
Bien sûr. Mais c'est justement, et c'est là qu'il faut bien mettre les coureurs en garde, hein, c'est de dire, si vous n'êtes pas prêt, bien sûr, moi je les respecte tout à fait, hein, il y a des coureurs qui se fixent des plans d'entraînement, qui veulent absolument en tant de temps arriver à telle performance, dans telle dimension, je les comprends tout à fait, mais alors dans ces cas-là, je pense que raisonnablement, ce n'est pas le moment pour eux de passer au minimalisme. Il faut qu'ils dégagent à ce moment-là dans leur vie, à un moment donné, le temps, les quelques mois qui sont nécessaires. S'ils ont déjà un corps entraîné, s'ils ont déjà un bon terrain, je dirais, sur le plan physiologique, tout est permis. Mais il faut savoir, encore une fois, en raccrochant ses anciennes baskets, il faut savoir passer au minimalisme et accepter de reprendre les choses. Je ne dis pas à zéro, faut pas exagérer, mais au niveau de la progressivité, c'est absolument essentiel. Et encore une fois, toutes les blessures, mais je dis bien toutes les blessures que j'ai pu observer, sont des blessures dues à une transition qui a été bâclée.
D'accord. Quand tu parles de blessures pour une transition bâclée, il y a quand même des coureurs minimalistes enfin des purs minimalistes qui ont déjà la foulée milieu pied, tout ça, qui se blessent quand même.
Bien sûr, mais de toute façon, cite-moi un sport dans lequel la blessure n'existe pas, qu'elle soit accidentelle d'ailleurs ou je dirais inhérente à la pratique du sport elle-même. Bien évidemment, j'ai eu des coureurs de haut niveau. Je pense à une athlète en particulier qui avait un niveau olympique et qui s'est fait une fracture de fatigue du bassin alors qu'elle courait avec des chaussures normales. Et bon, c'est venu sur un contexte un peu particulier, mais ça peut arriver, bien évidemment. La fracture de fatigue, elle n'est pas l'apanage du minimalisme, hein. Elle est par contre la complication, je dirais, essentielle, primordiale, qu'on nous resserre d'ailleurs régulièrement au niveau du passage minimaliste, parce qu'encore une fois, on n'a pas respecté les limites de la fatigue musculaire, on a trop demandé à son squelette, et ce squelette, bah, il a ses limites, et il casse.
D'accord. J'ai une autre question. Enfin, il en reste deux. Alors, donc, celle d'Éric d'abord, qui en revient toujours aux étirements. Doit-on prévoir des séances d'étirements supplémentaires, et notamment pour les mollets, lorsqu'on débute le cours naturel? Merci d'avance pour votre éclaircissement.
Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors bon, encore une fois, les étirements, le stretching, je n'ai plus son nom en tête là, mais un entraîneur réputé que j'ai vu récemment sur Facebook a dit arrêtez de vous étirer. Je pense qu'il se reconnaîtra. Et je dois dire que je suis d'accord avec lui. D'autres que moi l'ont dit aussi. L'étirement en tant que tel n'a pas véritablement un intérêt important. Il vaut beaucoup mieux, c'est beaucoup plus utile de pratiquer ce fameux travail excentrique dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse méthode de Stanisch. On en revient un petit peu à un étirement, mais c'est un étirement actif et non pas un étirement passif. Et là encore, pour le squelette, pour le côté physiologique de notre corps, c'est quelque chose de largement plus positif que le simple étirement passif.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, dans sans faire des séances d'étirement supplémentaires, est-ce que, par exemple, prendre soin de ses mollets en appliquant de la glace ou en faisant de l'électrostimulation de récupération, ça peut être utile?
Alors ça c'est une question qui m'amène à parler un petit peu. Alors là, je vais être un petit peu catégorique peut-être. On va me dire encore que je suis un petit peu méchant et partie prenante. Mais je voudrais parler de tout ce qu'on appelle, de tout ce que j'appelle moi les pansements, en mettant en plein de guillemets. Hein, c'est-à-dire toutes ces méthodes contre lesquelles, encore une fois, je ne milite pas. Je n'ai rien contre la glace, je n'ai rien contre le kettlebing, je n'ai rien contre les genouillères, je n'ai rien contre tout ça. Où je suis plus d'accord, c'est quand on utilise ces moyens, que l'on les utilise pour se soulager, ça c'est humain, on a mal, on veut éviter d'avoir mal, je trouve ça tout à fait normal. C'est pour ça qu'existent les antalgiques. Par contre, il ne faut pas que ces moyens deviennent des, comment dire, des incitations à reprendre trop tôt, à continuer, malgré les sensations négatives, à continuer l'entraînement. Ça, c'est comme ça qu'on court à la blessure. Hein, j'ai un exemple qui remonte à quelques années, c'était justement au cours du marathon de Paris. Hein, j'ai pris le départ avec devant moi une jeune femme qui avait un très beau strapping, fait manifestement par un professionnel au niveau d'un tendon d'Achille. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit de deux choses l'une. Ou elle n'a pas besoin. Si elle prend le départ d'un marathon, c'est qu'elle n'a pas de tendinite d'Achille, donc je vois pas pourquoi on lui met un strapping, qui risque en plus de poser des problèmes. Ou alors, elle a véritablement besoin d'un strapping parce qu'elle a vraiment une lésion de son tendon d'Achille, et il est évident qu'elle ne courra pas 42 km 195. Le résultat, c'est qu'au sixième ou septième kilomètre, elle a été prise en charge par les secouristes et elle avait une rupture de tendon. Donc, je suis contre, je milite contre tous ces moyens, que ce soit physiothérapie, que ce soit... Encore une fois, en tant que tel, je n'ai rien contre, mais il ne faut pas s'en servir pour camoufler, pour dissimuler des éléments qui sont autant de signaux d'alarme qui veulent nous dire attention, la blessure est pas loin.
D'accord. Alors maintenant, j'ai une dernière question de Bip Bip. D'ailleurs, c'est une question sur une blessure. Bonjour. Depuis 5 mois, je cours minimaliste sans problème, progressivement jusqu'à 15 km. Cependant, en passant à un modèle zéro drop avec des Mizuno, apparemment, mes tendons se sont rappelés à moi.
Les, pardon.
Mes tendons se sont rappelés à moi.
Alors, je ne sais pas quel tendon, je suppose qu'il s'appelle. Il s'agit toujours des tendons d'Achille, vraisemblablement.
Je pense aussi qu'il s'agit des tendons d'Achille.
Donc, bah, on en revient toujours à la même chose, hein. Si ces tendons se sont réveillés, c'est parce que, non pas, je pense pas que ce soit la place de ces chaussures, puisqu'il en est déjà à une progression qui est quand même plus qu'honorable, mais simplement, il a dû passer au stade au-dessus un tout petit peu trop rapidement, et donc il a réveillé, donc, bah, méthode Staniche, et on en revient toujours à la même chose. Et encore une fois, ça n'a rien d'anormal, ça n'a rien de pathologique, une douleur, une sensation douloureuse n'est qu'un avertissement, ça veut dire il se passe quelque chose, c'est tout. Une brûlure d'estomac, ça se traduit pas forcément par une intervention chirurgicale en urgence dans les 2 heures. Une brûlure d'estomac, ça peut être simplement une muqueuse qui souffre parce qu'elle est inflammatoire, parce qu'on a fait n'importe quoi. Bon, bah, c'est exactement la même chose. Là, il faut simplement en tenir compte. Si j'ai des douleurs de mes tendons d'Achille, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je suis allé? Comment j'ai couru? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'avais pas mal avant? Pourquoi j'ai mal? Et les réponses, en général, on les trouve. Il suffit d'être objectif, il suffit d'être honnête, il suffit d'avoir, je dirais, l'attention de se reporter à ça et tout va pour le mieux dans ces cas-là. Donc c'est encore une fois. Alors il peut appliquer, bien sûr, notre lecteur, il peut appliquer des moyens physiothérapiques. Je n'ai encore une fois rien contre, mais il faut qu'il tienne compte qu'il a eu cette douleur au niveau de ce tendon d'Achille et que donc il faut vérifier un petit peu comment ça va se passer dans les séances futures.
Donc, en résumé, il doit réduire quand même ses entraînements prochains et faire très attention. Donc, à la moindre douleur, il arrête et
Toujours revenir. Pour moi, c'est toujours prendre un petit temps de repos d'un jour ou deux, pas quelque chose d'énorme, on peut toujours aller nager, on peut toujours aller faire des tas de choses, hein. Prendre un petit temps de repos au niveau de la course à pied proprement dite, reprendre après s'être dit qu'est-ce que j'ai fait, reprendre par exemple tout simplement des footings sur le plat, dans de bonnes conditions, voir comment ça se passe, et reprendre petit à petit là où on en était arrivé. Mais je trouve que rien que ses réflexions par rapport à sa transition, qu'il a apparemment parfaitement réussi, puisqu'il arrive à 15 km après quelques mois, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable, et simplement un petit incident ne doit pas tout remettre en question. Il a simplement peut-être progressé un tout petit peu rapidement ce jour-là, et c'est à corriger, et ça doit servir de référence et d'expérience.
Eh bien, l'interview touche à sa fin. Je te remercie, Daniel, pour ce partage, pour pour avoir communiqué ton expérience au lecteur, auditeur du blog. Et je te laisse conclure avec le mot de la fin.
Eh ben, le mot de la fin, c'est le mot que je martèle, ça tous les amis qui m'ont côtoyé, notamment sur le terrain, le savent, c'est la progressivité. Alors, progressivité, encore une fois, ça veut dire commencer. Moi, je conseille toujours de commencer par quelques centaines de mètres, pieds nus, sur un bitume, pour bien sentir les sensations à la fois superficielles et profondes, simplement de cette nature-là. Ensuite, savoir progresser, comme on l'a dit, tout en respectant les sensations, en analysant les sensations. Il peut y avoir effectivement l'apparition de phénomènes inattendus, que ce soit au niveau de muscles, au niveau du genou, au niveau de tas de choses. Et il faut, dans ces cas-là, ne pas hésiter à consulter un spécialiste pour voir qu'est-ce qui se passe, car encore une fois, la restitution de la physiologie, ça n'est pas un miracle, hein, c'est quelque chose qui peut effectivement se traduire par un certain nombre de choses. Et puis surtout, progresser de façon tout à fait naturelle. Et j'espère simplement une chose, c'est qu'à travers les écrits, à travers ce genre d'interview qui, à mon avis, est extrêmement importante, eh ben, c'est arriver à diminuer cette fameuse fracture de stress et cette fameuse fracture de fatigue qui, encore une fois, comme je l'ai écrit d'ailleurs sur mon blog, le vrai problème le vrai risque de la course minimaliste, c'est le coureur.
Eh bien, je te remercie, Daniel, pour cette interview et je te
À ta
dis à bientôt.
disposition. À très bientôt, Jean-Marc. Merci. Merci à toi.
Et voilà, l'interview avec Daniel Dubois est finie. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des commentaires, laissez-les sur le blog et nous y répondrons. Et je vous dis à très bientôt sur Testeur Outdoor.